95.7. Voici le commentaire de Bernard Drainville.
Monsieur Bernard Drainville, bon matin.
Salut.
Hey, on est en train d'avoir une petite discussion, puis t'es l'arbitre, t'es le juge, tu vas trancher.
Je sais pas, là.
Okay, t'es pas sûr? Parce qu'on parlait... On parle d'éducation, puis évidemment, on vient d'avoir une entrevue avec des gens en Ontario qui nous disent, gars, l'école en ligne chez nous, là, pour le secteur public, là, ça fait longtemps qu'on servirait de bord, puis les jeunes continuent d'aller à l'école, ce qui n'est pas le cas au Québec, puis c'est probablement notre plus grande déception à date, là, dans la gestion de la crise, c'est comment se fait-il qu'on n'a pas été capable d'adapter le système d'éducation comme les autres provinces? C'est la première des choses. On part de là. Mm-hmm. Là, on se dit, bon, on commence à parler de rouverture. Mm-hmm. Est-ce qu'on rattrape le retard en instaurant l'école juillet-août, si on est capable de les rouvrir, ou encore, l'an prochain, et ça, moi, ce serait plutôt ma solution, on réduit le nombre de congés pédagogiques, on est peut-être prêt à abolir la semaine de relâche, on fait un mois complet de révision sur l'année précédente qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'assimiler, puis le reste du temps, on abandonne les cours qui ne sont pas essentiels, puis on fait double maths, double français, double science pour le reste de l'année, là.
Non, écoute, je te suivais jusqu'à ton dernier bout. Là. C'est-à-dire qu'on dise, j'ai pas réfléchi à ça là, plus qu'il faut, mais d'abord, je partage votre déception par rapport au système public. Moi, j'ai vu le système privé se revirer de bord très rapidement. J'ai trouvé que le système public avait mis du temps à le faire. Il y a un bon deux semaines là, pendant lesquelles on se demandait ce qui se passait. À sa défense, Jean-François Roberge a quand même par la suite annoncé la création d'un site web. C'est quoi? Je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est École ouverte ou je sais pas quoi. Ouais, là, en tout cas, ouais. Tu peux aller. Bon, il y a du contenu. Là, il a envoyé les trousses cette semaine aux parents. Les enseignants doivent faire un suivi une fois par semaine. Quand c'est un élève qui a des difficultés, c'est deux fois par semaine, etc. Il a rattrapé une partie du temps perdu. Télé-Québec aussi va diffuser du contenu éducatif. Maintenant, sur la notion de rattrapage, moi, j'aime bien ton idée de dire on prend le premier mois de la prochaine année scolaire, puis on essaye de comprimer à l'intérieur de ce mois-là là, les matières qui n'ont pas été suffisamment enseignées pour permettre après ça à l'élève, de continuer son nouveau niveau avec le minimum de base, le minimum syndical, on va dire, là, pour lui permettre, de réussir son année scolaire. Donc... Bon, à cette heure, est-ce qu'on laisse tomber certaines matières ou pas? J'aimerais mieux pas. Si c'est le prix à payer, on pourrait l'envisager. Mais l'idée... Tu sais, on peut pas faire semblant que nos enfants ont pas eu, possiblement jusqu'à deux mois, puis peut-être plus d'école, là. Ça, on peut, parce que ça, c'est la recette pour l'échec, là.
Ah, absolument.
Fait qu'il faut trouver une façon, de lui permettre d'effectuer ce rattrapage. Puis j'espère, honnêtement, que le système va être un peu plus rapide à s'adapter pour ce qui est du rattrapage qu'il l'a été pour assurer la poursuite de l'apprentissage.
Écoute,
là, pour assurer, dans le fond, l'école à la maison. Là.
On faisait notre analyse des déceptions et des surprises. T'sais, quand je me dis que bon, le système de santé s'est reviré, il n'y a pas bien le choix, il y a le couteau sous la gorge, puis ça s'est bien fait, je dois le dire. Là. Ça va quand même bien, le système de santé. Après ça, savoir que l'ARC a été capable de délivrer des chèques, moi, si j'avais eu à miser sur quelqu'un qui allait foirer, c'est eux autres. Là.
Ben oui,
et là,
aussi.
Notre système d'éducation est en dessous de l'ARC.
Oui. Mais là, je vais vous dire, là, il y a autre chose là, qui est décevant, là, de plus en plus. Là.
Ouais.
C'est de ça dont je voulais vous parler. Là, on se rend compte que... Tu sais, depuis le début de la crise, on dit c'est les personnes de 70 ans et plus qui vont être frappées le plus, qui sont les plus vulnérables. On le sait, ça. Bon. Là, on se fait dire, depuis le début de la crise, à part là, les derniers jours, là, il n'y en a pas de problème avec le matériel. Il n'en manquera pas de matériel. Sauf que là, on se rend compte que dans les institutions comme les CHSLD, où se trouve une très forte proportion de personnes de plus de 70 ans, il n'y avait pas le matériel pour s'en occuper. D'abord, ils n'ont pas le matériel pour les soigner. Ils n'ont pas les équipements là, respiratoires, par exemple, dans bien des CHSLD, pour s'occuper d'une personne aînée qui a un problème respiratoire. Puis on sait qu'avec ce virus-là, il tue... quand ça se jette dans les poumons. C'est là que ça arrive. C'est les difficultés respiratoires qui finissent par emporter la personne. Bon, alors, on sait que c'est nos aînés qui sont les plus fragiles. Ils sont dans les CHSLD et dans les résidences pour aînés. Puis les CHSLD et les résidences pour aînés n'ont pas l'équipement pour les soigner.
Mm-hmm.
Et en plus, excusez-moi.
Dans ton coude, hein? C'est important.
Ouais. Et en plus, le personnel n'a même pas le matériel pour se protéger. Dans beaucoup de CHSLD du Québec, ils n'ont pas assez de masques ou ils n'ont même pas de masques. Puis là, je ne vous parle pas des N95, je vous parle de ce qu'on appelle les masques de procédure. Là. Voilà, exactement. Dans des CHSLD, ils n'ont même plus de jaquettes. Ils n'ont pas assez de jaquettes.
Ouais.
Fait que là, donc le gouvernement qui nous annonce hier que là, la priorité, ça va être de sauver nos aînés, de mieux protéger nos aînés. Honnêtement, j'ai le sentiment qu'on arrive un peu tard, là.
Ben, c'est un échec total. Tu sais, Bernard, moi, qu'on ait permis puis qu'on ait demandé à des préposés, des infirmières, de passer d'un foyer infecté et de faire un temps supplémentaire immédiatement après dans un foyer pas infecté avec les mêmes vêtements de travail, quand la personne dit et lève la main et dit « Non, je peux pas faire ça. » Oui, tu vas le faire. Ça n'a aucun sens. Nous, ça s'est fait, là.
Mais non, puis ça s'est fait un peu partout au Québec.
C'est l'équivalent de tuer du monde, quasiment.
Puis là, allons plus loin, là. OK, allons plus loin. Hier, j'entendais la directrice de la Santé publique de Montréal dire qu'elle veut éviter que les CHSLD soient perçus comme des mouroirs. OK? Hier, j'ai quelqu'un qui travaille étroitement avec le système de santé qui me fait le commentaire suivant. Il dit, la situation est sous contrôle dans les hôpitaux. Ben oui, il y a moins de personnes qui meurent hospitalisées. Mais il y a moins de personnes qui meurent hospitalisées parce qu'elles meurent dans les CHSLD. Puis là, j'ai contacté le cabinet de la ministre Marguerite Blais pour leur demander, pouvez-vous me donner le nombre exact de résidents de CHSLD qui sont décédés en CHSLD et le nombre de résidents de CHSLD qui sont décédés à l'hôpital? Je parle de personnes atteintes de la COVID, évidemment. Là.
Mm-hmm.
La réponse qui m'est revenue, c'est qu'il y a 85 aînés qui sont décédés en CHSLD. L'autre chiffre, les personnes donc atteintes de la COVID, aînés, qui sont mortes à l'hôpital, ça, on n'a pas le chiffre, on ne peut pas vous le donner ce soir. J'espère qu'ils vont nous le donner aujourd'hui. Mais là, la question qui se pose, c'est si la majorité des personnes aînées qui étaient atteintes de CHSLD, si la très forte majorité même, sont décédées en CHSLD, est-ce qu'il y avait une directive à l'effet qu'on ne les transférait pas à l'hôpital?
Écoute, je peux tenter une réponse parce que moi, mon père est décédé en CHSLD, là, puis souvent, il te pose la question à ton admission, puis il te la repose de temps en temps, puis c'était le cas, nous autres, la famille, là. Si jamais il arrive un problème, vous voulez être transféré à l'hôpital en soins intensifs ou pas d'acharnement thérapeutique, parce que la plupart sont déjà malades en CHSLD.
Ouais.
Puis de manière générale, de ce qu'on me disait, les gens ne veulent pas être transférés à l'hôpital. Puis c'est souvent en accord avec les familles. Moi, mon père avait été clair, puis il était relativement jeune, puis il dit, gars, s'il m'arrive de quoi, là, rendu où je suis dans ma vie, là, non, pas d'acharnement, de toute façon, j'ai plus de qualité de vie. Fait que, tu sais, ça fausse les données, effectivement.
Bien, à ce moment-là, si c'est le cas, qu'on nous le dise. Mettons qu'on nous dit sur les 85 personnes aînées qui sont décédées en CHSLD, il y en a, je sais pas moi, il y en a 50 sur les 85 qui avaient exprimé clairement une volonté de ne pas être transférés dans un hôpital. Ça, j'ai pas de problème avec ça, là. Ça, on respecte ça, là. Mais pour les autres, là, est-ce qu'il y avait une directive qui disait si on a un aîné dans un CHSLD ou une résidence pour aînés, vous le gardez dans le CHSLD, vous le transférez pas à l'hôpital? Avec, évidemment, les conséquences.
Bien, c'est ça, c'est terrible.
C'est-à-dire les fortes probabilités que la maladie l'emporte, d'autant plus qu'ils n'ont pas l'équipement pour l'équipement respiratoire pour les soigner. Puis t'as en plus du personnel qui n'est pas protégé correctement. Bon.
Ouais. Mais comme on a conseillé aussi les familles, moi, j'ai déjà entendu des médecins me dire « Ah, mais tu sais, sont aussi bien de rester ici parce que si on les amène à l'hôpital, c'est pour la seule étape qu'on peut faire de plus, c'est les intuber. » Puis rendu là, les extubés, c'est à peu près impossible. Donc, ils vont mourir pareil. Fait que tout aussi bien de les garder là. Si le médecin te suggère ça de cette manière-là, c'est clair, tu prends la décision de le garder là.
C'est clair. Mais à ce moment-là, es-tu d'accord avec moi, Dominique, qu'on devrait nous le dire?
Ben oui.
Moi, je pense qu'on devrait être transparent puis nous dire, écoutez, s'il y a eu autant de décès dans les CHSLD, c'est parce qu'il y avait des personnes qui ne souhaitaient pas être transférées. Et c'est aussi parce que le médecin de garde ou l'infirmière de garde a jugé que de l'amener dans un soin intensif, dans une unité de soins intensifs, puis la faire intuber, ça allait de toute façon avoir pour conséquence qu'elle allait en décéder ou que les chances qu'elle survive à une telle procédure étaient trop minces pour que ça vaille la peine de la transférer. Mais tu sais, c'est parce que tu sais, moi je veux bien là qu'on me dise les taux d'hospitalisation sont bons, puis les unités de soins intensifs, les chiffres qu'on a pour les unités de soins intensifs sont bons aussi. Donc, on gère bien la crise. Mais si les personnes qui auraient pu se trouver hospitalisées ou qui auraient pu se trouver en soins intensifs se sont pas rendues là parce qu'on a décidé de les garder en CHSLD, ou encore elles ont voulu explicitement rester en CHSLD, comme ton père, bien, honnêtement, moi, je pense que là où on est rendu dans la crise, c'est le genre d'information qu'on devrait avoir.
Tout à fait.
En toute transparence.
Mais tu sais, ça, c'est le grand mensonge au Québec où, dans les statistiques, on est toujours excellent parce qu'on les change de nom. Exemple, là, ces gens-là, dans d'autres pays, là, les CHSLD, c'est des hôpitaux. Là. Ils appellent ça hôpitaux puis ils comptabilisent ça dans leurs statistiques. Au Québec, on n'a pas ça. De la même manière qu'à un moment donné, te rappelles-tu les urgences? Hein, le temps d'attente, là, ça n'avait pas de bon sens. Fait que là, on a renommé le couloir où les gens étaient, salle d'observation. Fait que là, ils sortaient du temps d'attente des urgences. Tu sais, quand tu veux jouer avec les stats, là, c'est facile de le faire. Tant qu'à moi, les CHSLD, c'est des hôpitaux.
Ben, mais là, alors, mais c'est ça. Mais là, si c'est des hôpitaux, ben, donnons-leur l'équipement pour soigner les gens.
Oui.
Si c'est des mouroirs, puis, comme tu vois, il y a des acteurs importants de la crise qui se défendent, tu sais, qui disent, faut surtout pas que vous pensiez que c'est des mouroirs. Ben, si c'est pas des mouroirs, organisez-vous pour soigner. Mmh. Ayez l'équipement pour soigner. Tu sais, mais dites-nous la vérité.
Ah, absolument.
Dites-nous la vérité. Puis par ailleurs, pendant tout le temps de la crise, vous nous avez dit qu'il ne manquait pas de matériel. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il ne manquait pas de matériel dans les hôpitaux, ou en tout cas, il en manquait moins dans les hôpitaux, mais visiblement, dans les CHSLD, il manquait, et il manque encore beaucoup, beaucoup d'équipement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Là. Moi, je reçois des courriels, là. T'sais, j'ai reçu une infirmière, là. T'sais, aujourd'hui, je suis allé à mon travail comme infirmière. J'ai trouvé que c'était chaotique. Je crois que la sécurité des résidents et des employés est mise à dure épreuve. Nous avons des cas de COVID au troisième étage. Les employés se promènent d'un étage à l'autre. Nous n'avons pas de surplus pour l'entretien ménager et la désinfection des lieux. Il y avait deux filles pour les trois étages. Lorsque les employés entrent dans une chambre COVID, ils n'ont pas de masque N95. Dans certains cas, ils n'ont pas de masque pantoute. Aucun supérieur dans Baptiste aujourd'hui.
Non, c'est épouvantable.
Tu sais, je veux dire, moi je vous le dis, là, vous ouvriez, si vous demandiez aux gens de vous appeler, là, vous seriez surpris, je pense, du nombre de témoignages que vous auriez par téléphone ou par courriel ou par texto ou autrement. Puis, hein, comment tu dis?
Depuis une semaine, ça n'arrête pas. Hein. Par Facebook, notamment, il y en a beaucoup qui nous contactent en privé pour nous raconter des situations qui n'ont juste pas d'allure, qui n'ont pas de sens. Tu sais, comme je te disais tantôt, les infirmières qui passent d'un centre à l'autre, là on a arrêté ça. Mais l'histoire des étages, en fait, le matériel, les chariots pour distribuer les médicaments et autres, là, c'est parce que c'est le même qui va au troisième, au deuxième, puis au premier. Là. Fait que ce chariot-là devient porteur de... peut-être un vecteur de transmission.
Ouais.
Tu sais, les CHSLD sont pas conçus pour ça. Il y a du monde qui meurt à chaque année d'un CHSLD de simple éclosion, de gastro, parce que ça se traîne d'un étage puis d'une chambre à l'autre. Fait que mets la COVID là-dedans.
Ben c'est ça, là. Mais tu sais, à ce moment-là, si c'était comme pris pour acquis depuis le départ, là... Ben, c'est quoi? C'est une réalité qu'il faut pas dire, ça? Moi, en tout cas, s'il fallait pas la dire au début parce qu'on voulait pas créer de panique ou je ne sais trop quelle est la raison, moi, je pense qu'au point où on en est actuellement, je pense qu'on doit avoir l'heure juste, là. Mm-hmm. Moi, je veux le savoir, là. Y avait-tu une directive qui disait, une directive au CHSLD, si un patient qui est infecté à la COVID ou qui est suspecté d'être infecté à la COVID, il doit pas être transféré en centre hospitalier?
C'est une bonne question.
C'est ça. Je pense que c'est important qu'on le sache. Là.
Absolument. Parlons de la partisanerie à Ottawa, parce que là, évidemment, les subventions salariales, les entreprises attendent après ça. On veut réunir la Chambre, puis là, on ne semble pas trop enclin dans les partis d'opposition à se réunir. Hein?
Ben, c'est parce que ce qui se passe, là, c'est qu'il annonce une subvention salariale, Justin Trudeau, 75 %. Bravo. Là, tu vois déjà l'effet. Là. Air Canada là, qui dit, bien, à cause de cette subvention salariale, moi, je vais réembaucher 16 500 employés. Puis il y en a plusieurs qui vont rester à la maison, mais je vais les remettre à l'emploi, à mon emploi, pour être prêt pour la relance. Là, t'sais? Bon, puis je veux les garder. Je veux préserver le lien d'emploi. Là. Je veux les avoir quand ça va être le temps de remettre les avions en vol. Là, t'sais? Mm-hmm. Bon, alors, sauf que... Air Canada, là, ils vont pas réembaucher tant qu'ils connaîtront pas le contenu exact de la loi. Et cette loi-là, elle doit être votée. La subvention salariale de 75 % elle doit être votée par le Parlement et elle devait l'être cette semaine. Et là, ça taponne, ça brette, parce que les conservateurs ont décidé de faire de la politique avec ça. Parce que le Bloc a une entente avec les libéraux. Ils ont négocié, là, ils ont obtenu là, une bonification de la subvention pour couvrir une partie des coûts fixes de l'entreprise. Là. Je pense que c'est 15 % des coûts fixes. Ouais. Ils ont un deal, eux autres. Ce que je comprends, c'est que le NPD sont pas loin d'avoir un accord, si ce n'est déjà fait. Mais là, les conservateurs demandent, écoutez bien ça, ils demandent pour appuyer la loi puis pour permettre donc le retour en chambre puis le vote qui permettrait à la loi d'être adoptée. Ils demandent qu'une période des questions soit tenue 4 fois par semaine en présence du premier ministre, avec un nombre limité de députés, dans certains cas, si je comprends bien. Mais honnêtement, là, c'est-tu le temps de commencer à exiger ce genre de conditions pour appuyer une loi dont on a tant besoin et dont les entreprises ont besoin pour commencer à réembaucher ou encore garder à leur emploi des personnes qui ont peut-être plus les moyens de garder, mais qui seraient prêtes à garder si on leur dit le gouvernement va payer 75 % du salaire. Moi, je trouve que c'est pas le temps de faire de la petite politique actuellement. À Québec, d'ailleurs, ils ont été exemplaires. Les 4 partis travaillent ensemble, c'est vraiment beau à voir. Mais les conservateurs, là, ils ont pas d'affaire à faire ça. C'est pas le temps de faire de la politique. Vous la ferez, votre politique, plus tard. Si vous êtes en manque de visibilité, garde. Honnêtement, là, c'est votre problème. C'est pas notre problème. Là, ce qu'on veut, c'est que la loi soit votée. Pour qu'elle soit votée, on a besoin de l'unanimité. Fait que, arrêtez de niaiser. Donnez votre accord. Que le Parlement siège au PC. Que la loi soit votée, puis que les entreprises sachent à quoi s'en tenir, puis que là, les personnes soient rappelées à l'emploi, puis que ça se fasse le plus rapidement possible. Parce que moi, je suis un entrepreneur ou je suis un dirigeant d'entreprise, je ne vais pas rembaucher le monde. D'abord, je ne peux pas tant que la loi n'est pas votée, puis deuxièmement, je ne le ferai pas tant que je ne saurai pas exactement ce qu'il y a dans la loi.
Exact. Exact.
Hein? Bon, mais c'est ça, là. Fait que c'est pas le temps de faire de la partisanerie.
Ouais. Merci beaucoup, Bernard.
Hey, bonne journée. Je suis désolé d'apprendre l'histoire de ton père, Dominique.
Ah, ben oui,
mais je pense que c'est probablement une histoire que beaucoup de gens qui nous écoutent ont connue. Je pense que c'est probablement arrivé très, très souvent. Puis je comprends, tu sais, je comprends quelqu'un qui rentre en CHSLD qui dit, garde-le, moi, là, je sais que c'est la dernière étape, là, puis j'ai pas le goût, là, si jamais, là, ça je commence à mal aller, là, amenez-moi pas à l'hôpital, je veux pas de ça.
Mais tu sais que la majorité des morts en CHSLD, ce sont des pneumonies, hein? Les gens meurent de ça parce que, bon, un virus qui vire mal, ça tourne en pneumonie, puis ils meurent tous de la même façon, avec des soins de confort. Puis c'est pas une belle mort, honnêtement, tu souhaites pas ça. Là.
Non. Puis, tu sais, je serais curieux de savoir là, la durée de séjour moyenne dans un CHSLD. Je serais curieux de savoir ça. J'ai l'impression que ça doit être quelque part entre 6 mois et 1 an. Je sais qu'il y a des personnes qui vont peut-être, dans certains cas, rester en CHSLD là, plus d'un an. Là. Mais Dominique, je suis pas mal certain là, que la majorité des personnes qui entrent en CHSLD n'y restent pas plus d'une année.
Moi, la statistique la plus humaine qui frappe le plus, là, veux-tu que je t'adonne? Moi, comme on me dit, en entrant au CHSLD, quand mon père est entré, on me dit, es-tu incontinent? On dit non. Bon, mais dans 3 semaines, il va l'être.
Hein?
Ouais.
Pourquoi? Non. Parce qu'il se laisse aller?
Pour toutes sortes de raisons. C'est parce que, tu sais, souvent, il y en a que... Dans le cas de mon père, c'était la sclérose en plaques. Donc, de plus en plus, il avait de la misère avec ses mouvements. Il avait besoin d'assistance pour aller aux toilettes. Mais là, l'assistance en CHSLD, à un moment donné, ça a ses limites. Tu sais, quand tu as envie, mettons, 2 heures, ça ne veut pas dire que la préposée est prête à ce que toi, tu y ailles, à te lever de ton lit, à t'asseoir sur la toilette. Ça prend du temps, c'est lourd, c'est une procédure. Fait qu'à un moment donné, mettre
t'es plus capable d'y aller par toi-même, t'as besoin d'aide, la personne qui est supposée t'aider n'est pas présente, fait que là, tu fais dans ta culotte, puis la première affaire que tu sais, tu te retrouves avec une couche.
Ben, c'est ça. Quand ils sont deux pour deux, trois étages.
Oui, je sais bien.
C'est ça.
Aïe, aïe, aïe. Ouais. On veut pas... mettons le plus tard possible. Hein?
Exact. Exact.
Okay.
Merci beaucoup, Bernard.
Salut tout le monde.
Salut,
bye
bonne
bye.
Journée.
Kick 95.7. Voici le commentaire de Bernard Drainville. Le show du matin. On revient tout de suite après la pause. 95.7 Kick Saguenay.